On est dans le cours « La mort dans la cité », à la leçon 7, je m'appelle Yannick Étier. Eh oui, depuis bientôt 45 ans. Et ce matin, on adresse le sujet « L'homme sans la Bible ». Alors, on va commencer avec un mot de prière. Mais Père éternel, merci pour tes grâces. Merci, Seigneur, pour ta présence ici au milieu de nous par ton Esprit Saint qui habite en nous, Seigneur. Père, merci de nous avoir fait connaître tes saintes Écritures. Seigneur, notre conscience qui pouvait nous guider à travers simplement la nature, Seigneur, nos propres cœurs vers une recherche de toi, ne suffisait pas, Seigneur, à te connaître véritablement. Je te prie, Père, de parler à nos cœurs ce matin à travers cette leçon, cette réflexion de Francis Schaeffer. Viens, Seigneur, nous aider à ajuster le tir dans notre présentation de l'Évangile, dans nos conversations avec nos proches, nos amis, nos contemporains, Seigneur, qui n'ont pas ces repères, ce repère extraordinaire qui est ta parole de Dieu, qui est ta parole, Seigneur. On te demande de nous bénir ensemble ce matin. C'est en Jésus qu'on te prie. Amen. Je déparle le matin. L'homme sans la Bible. Je vais vous demander de vous mouiller tout de suite, OK? Quand vous parlez de l'Évangile ou quand vous voulez aborder la question de Dieu ou la question de la spiritualité, de la foi, tout ça, avec des amis ou avec quelqu'un que vous croisez pour une première fois, Est-ce qu'il y a une approche en particulier que vous utilisez? Si c'est le cas, vous commencez où généralement? Alors là, je vais être patient, vous allez être obligé de parler un petit peu en début de cours ce matin. Où est-ce que vous commencez quand vous voulez aller vers une conversation spirituelle avec quelqu'un qui, à votre connaissance, n'est pas chrétien? Oui, David, Samuel. OK. Contexte de la personne pour aller vers un sujet spirituel. OK. Est-ce que à quel moment tu vas vers des passages bibliques? Tu t'en vas vers les Écritures. OK, tu soulèves l'incohérence dans le raisonnement de la personne pour aller vers les Écritures puis montrer un système qui est cohérent. C'est ça? OK. Samuel. Ben,
souvent, les gens sont pas très portés vers tout le milieu professionnel avec lequel je travaille. Donc, j'essaie de leur demander c'est quoi le but d'être professionnel.
OK. Milieu professionnel, les gens sont pas connaissent pas les Écritures. Tu commences avec le sens. OK. C'est quoi le but, le sens de la vie? OK? OK, dans le fond, tu pars carrément en voulant provoquer une réflexion, ouvrir une réflexion qui est peut-être même pas à peu près absente chez eux. OK, quelqu'un d'autre? Oui, je viens à toi, Célia, après. Je vais juste répéter ce que vous venez de dire. Donc, vous commencez avec la Bible. Vous commencez en demandant à la personne si elle a une Bible. Vous lui dites que vous lisez ce livre-là depuis 35 ans. Puis là, vous leur parlez d'éternité, leur destinée éternelle, l'importance de régler ça. Ouvert. OK. OK.
Dans
ciel.
Oui.
Qu'est-ce que tu répondrais?
OK, donc la question classique de E.E., c'est quand tu, si tu te présentais devant Dieu, Dieu te demandait pourquoi je te laisserais rentrer au ciel, quelle serait ta réponse? Merci. Célia. OK. Son arrière-plan. Je vais répéter. Oui.
Ils ont la foi, mais ils n'ont pas nécessairement, tu vois, les gens que je côtoie, des fois, ils ont la foi, mais ils ne connaissent vraiment pas Jésus.
OK, donc, pour toi, c'est un contexte où les gens ont la foi. Ça, c'est important de le mentionner, mais ils ne connaissent pas la personne de Jésus-Christ, de Christ. Puis toi, tu as tendance à commencer en parlant de la grandeur de Dieu, puis tu essaies d'aller vers la personne de Jésus. C'est bon. Je vais m'arrêter ici. Merci. Ce que Francis Schaeffer nous suggère dans ce chapitre-là, c'est que l'apôtre Paul avait une approche systématique, une approche qu'il répétait, je vais l'appeler comme ça, là, une approche paulinienne à l'évangélisation de personnes qui ne viennent pas d'un contexte biblique, d'accord? Donc, en fait, Schaeffer nous dit, Paul, je vais prendre le terme évangéliser, là, évangélisait de manière totalement différente des Juifs et des païens, d'accord? Et puis, il fait son argument sur trois moments. On a trois, les références sont là, on ne pourra pas aller toutes les lire, mais trois occasions où on voit Paul s'adresser ou s'adresser à une pensée qui est païenne, d'accord? Deux situations où littéralement il s'adresse à des gens qui sont dans un contexte où ils n'ont aucune révélation biblique qui fait partie de leur référence. Et puis l'autre, c'est dans Romains directement, où au début, dans Romains 1, bien, il fait comme le raisonnement pour les non-juifs, ceux qui n'ont pas la révélation biblique. Puis ensuite de ça, il va s'adresser aux religieux, sous-entendu le juif. D'accord? Dans Romains 1, Romains 2. Et donc, ce que Schaeffer est en train de nous dire, c'est que Paul avait une approche. Il avait systématiquement toujours la même approche. Il dit, on peut définir l'approche d'évangélisation de Paul auprès des hommes, des femmes, sans la Bible. Il les présente comme ça, les gens sans la Bible, les gens qui n'ont pas cette portion-là de la révélation. Et puis, il dit son approche est toujours la même. Paul commence toujours avec la colère de Dieu. Ce qu'on trouve dans Romains 1, c'est ce que Paul va faire à Lystre, c'est ce qu'il va faire aussi avec l'aéropage à Athènes avec l'aéropage assez vite, c'est là qu'il s'en va aussi. Il pose une bonne question. Si vous allez avec moi dans Romains 1, on est dans Romains le dimanche matin, tout ça, puis on a dit que les versets 16 et 17 sont pas mal le thème de toute la lettre, de toute l'épître aux Romains. Romains 1, 16, 17. Que vous connaissez au moins à peu près par cœur, car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Puis Schaeffer pose la question, il dit, à quelqu'un qui n'a aucune culture biblique, comment est-ce que vous pensez que ça sonne ces deux versets-là? Qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Par exemple, juste le verset 16, « Car je n'ai point honte de l'Évangile », ça va. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alors, si on sort de notre contexte, là, essayez de penser à l'extérieur de votre tête de chrétien. Essayez de penser à l'extérieur d'un contexte d'église. Pensez à quelqu'un dans votre entourage qui a zéro culture biblique, qui ne vous a pas entendu répéter la cassette, d'accord, de l'Évangile 26 fois. Poser la question, ces gens-là ont besoin d'être sauvés de quoi? Si je vais voir votre voisin, là, vous allez voir votre voisin, collègue de travail, Sam, il dit, il pense pas beaucoup à ces questions-là. Sam, tes collègues ont besoin d'être sauvés de quoi? S'il y avait à être conscient qu'ils ont besoin d'être sauvés de quelque chose, ils ont besoin d'être sauvés de quoi, d'après toi? Selon eux, pas selon toi. C'est ça que je vous demande. Dans leur perspective à eux, ils ont besoin d'être sauvés de quoi? Est-ce qu'ils ont besoin d'être sauvés? Non. Puis il y en a quand même qui ont besoin d'être sauvés de quelque chose. De quoi? Dans leur perspective à eux, là. Oui. OK, sauver de la fin du monde. Je veux dire, l'environnement, ça fait peur. Ils ont besoin d'être sauvés de la fin du monde. Il y en a d'autres choses aussi. Ils ont besoin de quoi? La crainte de la mort. Sauver de la maladie. Sauver de la misère. Sauver d'une détresse psychologique. Sauver d'un mal à l'âme. D'accord? Ça, ils peuvent comprendre ça. Mais sauver de la colère de Dieu. Je veux dire, sur la rue, là, vous croisez les gens avec un calepin, là, faites un sondage, puis il y a toutes ces options. Laquelle de ces réponses? Combien vous pensez qu'il y a de Québécois qui vont vous dire, je parle des Québécois, je fais bien attention, pour moi c'est super éclairant d'être impliqué à Bouffe pour tous, parce que je m'en vais dans une autre dimension, je m'en vais dans une autre vision du monde. À Bouffe pour tous, j'ai un certain nombre de personnes qui me diraient, on a besoin d'être sauvés de la colère de Dieu, parce qu'ils viennent d'un autre arrière-plan, il y a une autre vision du monde, d'accord? Beaucoup de gens d'Amérique latine, beaucoup de personnes arabes, beaucoup de personnes musulmanes. Ça va, là. Il y a des références qui sont là. Mais vous promenez sur la rue, vous allez au centre d'achat, puis vous commencez à poser la question, puis vous donnez toutes ces options-là. Il y en a combien qui cochent sauver de la colère de Dieu? Fait que le raisonnement de Francis Schaeffer, il dit, c'est parce que le salut que vous leur annoncez, si pour eux, ils comprennent pas qu'ils ont besoin d'être sauvés d'un jugement divin quelconque, bien, le mieux que vous avez à leur offrir, c'est un salut psychologique. D'accord? Pour un grand nombre d'entre eux. Donc, lorsque ces gens-là regardent la religion, puis ils se disent, bien, c'est une béquille psychologique. C'est une béquille que tu avais besoin pour être mieux dans ta peau. Ta religion t'a sauvé. C'est vrai? À te sauver du mal à l'âme que tu aurais eu si tu n'avais pas eu cette religion-là. Puis toi, ça a été ta planche de salut. Ça a donné un sens à ta vie. Voyez-vous, quand on parle là, de vision du monde, je sais que pour plusieurs d'entre vous, c'est comme de quoi ils parlent. Pourquoi il faut faire de la philo à l'église? On prend les versets, Jean 3:16, on y va. Oh, mais c'est ça que je vous dis, là. Ces gens-là vivent pas dans le même univers que vous, parce qu'ils ne voient pas le monde de la même manière que vous. Alors, lorsqu'on utilise un langage, il y a un autre sens que le nôtre. Ils ont d'autres références que nous. Pour eux, pour plusieurs d'entre eux, s'ils sont respectueux de la religion, ça fait plein de sens que vous soyez chrétien parce que ça a été votre planche de salut pour vous sauver d'un mal à l'âme, d'une détresse, pour vous permettre d'être stable dans votre vie conjugale, pour vous permettre d'avoir un cadre moral dans votre maison pour éduquer vos enfants. Mais oui, ça a été votre planche de salut. Donc, vous avez été sauvé de comme une espèce de néant, d'un vide moral, d'une quête de sens. Mais vous avez certainement pas été sauvé d'un Dieu existant, une personne extérieur à vous-même, qui attend la fin des temps pour juger tous les hommes. Ça, là, ça ne fait pas partie de leur système, de leur vision du monde. Comprenez? Alors, ce que Francis Schaeffer dit, il dit, bien, d'après lui, c'est pour ça que Paul, à toutes les fois où il s'en va annoncer l'Évangile, à des gens sans la Bible, il ne commence pas avec la Bible. Je pense que Francis Schaeffer serait tout à fait à l'aise de commencer avec la Bible, avec certains passages qui vont dans ce sens-là. D'accord? Je pense à l'Ecclésiaste, je pense à différents passages, je pense à Romains 1. Mais Paul approche les gens à partir de leur vision du monde, puis il veut les amener à réfléchir qu'est-ce qui ne marche pas, un petit peu ce que David mentionnait, l'incohérence dans leur vision du monde. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Oui, Mr. Gosling. La question d'Annie, c'est est-ce que, dépendamment de la personne à qui on s'adresse, au Québec, on a un arrière-plan quand même chrétien ou nominalement chrétien. Fait qu'est-ce qu'on ne devrait pas s'ajuster dans ça? Oui, définitivement, on devrait s'ajuster. Je pense que c'est pour ça que c'est important d'être à l'écoute de la personne à qui je veux annoncer l'Évangile, puis de mesurer où est-ce qu'elle se situe, cette personne-là. C'est frappant. Je me suis assis avec un jeune homme il y a quelques mois au café, puis on a jasé longtemps, tout ça, puis il trouvait le christianisme super intéressant. Puis c'était clair pour lui qu'il fallait qu'il lise la Bible, il fallait qu'il connaisse ce livre-là, c'est fondateur à notre société. Mais dès que je suis allé sur le plan d'absolus moraux, il y a un bien, il y a un mal, Dieu va juger le mal, là, il y avait comme une espèce de barrière intérieure. Puis là, dans ce cas-là, j'avais quelqu'un qui avait vraiment une ouverture, mais le fondement, qui serait différent si je m'adressais à certaines personnes, à des gens d'un certain âge qui ont connu la religion catholique, tout ça, le fondement moral, il n'était pas là. Puis dans bien des cas, des gens plus âgés, bien, c'est un fondement qu'ils ont rejeté. Fait que oui, ils le connaissent, mais ça se peut que si je ne mesure pas où est-ce qu'ils se situent par rapport à ça, quand je m'en vais là, pour eux, ils viennent d'entendre le curé qui se met à parler. Puis c'est quelque chose qu'ils ont rejeté définitivement. Donc je dois aller voir ça. Mais oui, c'est ça, il faut être à l'écoute. C'est pour ça que je vous dis, c'est dans un sens, c'est beaucoup plus facile d'annoncer l'Évangile à bouffe pour tous que d'annoncer l'Évangile un peu partout. Parce que tu es dans une autre vision du monde pour plein des gens que tu rencontres là. Et c'est un défi beaucoup plus grand de se rendre à l'Évangile. C'est vrai en France, c'est vrai partout en Occident où ce fondement-là est rejeté, d'accord? Mais rappelez-vous, c'est ça qui est super important avec ce cours-là, c'est que Francis Schaeffer dit, il n'y a pas de surprise là. Il n'y a rien de désespérant là. On prend Paul comme base, on prend Jérémie comme base. C'est pas la première fois que Dieu annonce sa bonne nouvelle à une société qui est sans la Bible. D'accord? Loin de là. Ça va? Loin de là. Je m'en vais à la page 2 de mes notes. Schaeffer dit, les gens se tournent vers Dieu, la majorité d'entre eux, lorsqu'ils se tournent vers Dieu, même les gens qui vont venir à l'église ici et qui commencent à chercher un collègue de travail qui va accepter une invitation pour Vendredi Saint, qui vient écouter le témoignage de Christian. Leur élan, c'est de se tourner vers Dieu pour un salut psychologique. C'est pour être sauvé de quelque chose d'intérieur. D'accord? C'est pas parce qu'ils sont convaincus d'être foncièrement mauvais et qu'ils ne savent pas comment devenir bons, c'est qu'ils ne sont pas bien dans leur peau, puis ils cherchent comment être bien dans leur peau. Et il y a des gens dans nos églises qui acceptent, entre guillemets, l'Évangile avec ce seul référent-là. D'accord? Maintenant, ça veut dire qu'ils acceptent l'Évangile parce qu'ils veulent être bien dans leur peau. Puis il faut faire attention parce que dans la Bible, c'est clair que Jésus nous invite à aller vers lui si on n'est pas bien dans notre peau. Non? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ça ressemble à ça pas mal, tu sais. Puis c'est pas clair que Jésus est en train de dire, je vais vous donner du repos du fait que tous les soirs, vous n'arrivez pas à dormir parce que vous savez que le jugement de Dieu est sur vous. Non, je vais vous donner du repos. Vous êtes dans un système, dans une pensée, dans un train de vie, dans un style de vie qui vous tue, puis venez-vous-en, vous allez voir, je vais vous faire du bien. Tu sais, fait que c'est là dans la Bible. L'individu qui se convertit simplement parce que Dieu est saint, puis c'est pas dans mon intérêt à moi. Moi, personnellement, ma conversion, c'est une démarche assez égoïste. Hein? Comprenez? C'est très égoïste comme démarche, là. Je n'y arrivais pas, ma vie s'en allait nulle part, puis j'avais besoin que quelqu'un runne le show à ma place. Fait que c'était pas comme « Oh, je ne te glorifie pas, Dieu, viens te glorifier dans ma vie. » Non, ça, c'est tranquillement, le Seigneur me montre que c'est là qu'est toute la beauté de l'être humain, c'est lorsqu'il est en train de glorifier Dieu, mais c'est « Non, non, écoute, je suis en train de scraper tout, tu peux-tu faire de quoi avec moi? » C'était ça, là. C'est ça, ma conversion. Donc, c'est là dans les Écritures, d'accord? Il ne faut pas mépriser ça. Cet appel-là à aller vers Dieu pour notre bien, c'est définitivement là. Dieu veut mon bien, c'est pas une question, d'accord? Mais il y a plusieurs personnes qui estiment accepter l'Évangile, estiment croire dans l'Évangile, et tout ce qu'ils cherchent, c'est un salut psychologique. Si l'Évangile n'est pas bien exposé, c'est là qu'on s'en va. Et ça ne donne pas des chrétiens forts, si ça donne des chrétiens. D'accord? Parce qu'il n'y a pas nécessairement cette quête de sainteté qui est là. Je n'ai pas compris que Dieu me sauvait d'un jugement extérieur à moi. On avait des petits problèmes techniques ce matin, là, avec la projection. Alors, on va... Stay with me. On va laisser les gens faire leur travail. Et dans le fond, ce que Schaeffer est en train de dire, c'est que le besoin primaire de l'être humain, le besoin fondamental de l'être humain, c'est d'être délivré d'un jugement. D'être délivré du jugement de Dieu. Le mal-être, le fait que les vies sont tout croches, le fait qu'ils n'arrivent pas à construire un foyer qui va se tenir, c'est le fruit du jugement de Dieu. C'est la résultante du jugement de Dieu. Dans Romains 1, c'est quoi qu'il dit? Dieu les a livrés à eux-mêmes. Dieu les livrait à eux-mêmes. Vous comprenez? Donc, ça peut être la porte d'entrée. Ça peut définitivement être la porte d'entrée. Ils sont malheureux. Ils sont malheureux dans leur vie de couple. Ils n'arrivent pas à construire un amour durable, par exemple. Non, mais ça va être ma porte d'entrée. Mais je ne veux pas les sauver de ça. Je veux qu'ils soient sauvés du jugement de Dieu. Je veux qu'ils se réconcilient avec Dieu. Puis après ça, ils auront ce bénéfice-là d'apprendre à construire avec Dieu. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des questions sur ça? C'est bon? Dans Jean 3, on lit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Fait que ce que Schaeffer dit, c'est que lorsque je ne prêche pas la loi de Dieu, lorsque je ne prêche pas la sainteté de Dieu, lorsque je ne prêche pas la justice de Dieu, je ne peux pas vraiment leur faire connaître Dieu. Je vais leur faire connaître un Dieu qui n'est pas tout à fait le Dieu de la Bible. Parce que la loi de Dieu émane de son caractère. On pourrait le dire comme ça, Dieu est la loi. Dans le sens que le bien et le mal, ce qui est saint, ce qui est mal, tout ça est simplement un reflet de la personne de Dieu, de son caractère. Et donc, si je m'en vais pas à cet endroit-là, je vais présenter en quelque sorte une autre sorte de Dieu que le Dieu réel. D'accord? Alors, j'ai pas vraiment le choix d'aller là. Quand les gens... Puis je veux dire, j'en ai des amis, je pense, j'ai des visages qui me viennent en tête ou des gens qui écoutent oui à tout le message de la Bible, mais le Dieu qui juge, non. Tu ne peux pas être sauvé. Tu ne peux pas être sauvé parce que fondamentalement, ce que tu fais, c'est que tu voudrais te créer un Dieu, t'inventer un Dieu sur mesure qui te ressemblerait, mais ce n'est pas Dieu. Dieu est premièrement immuable. Il ne change pas, il est la vérité fondamentale. Tout ce qui est bien, tout ce qui est mal, tout ce qui est saint, tout ce qui est bon émane de lui, c'est l'expression de sa personne. Fait que si tu me dis que Dieu ne peut pas être immuable, il ne change pas la vérité, le bien, le mal, ça ne bouge pas, ça sort de Dieu, donc Dieu va juger tout ce qui est mal, tu ne te rendras jamais à Dieu. Tu es un sketch artist, tu es en train de faire un croquis du Dieu que tu aimerais avoir, puis tu le dessines comme tu veux, puis tu essaies d'effacer des morceaux. Mais tu ne te rendras jamais à Dieu. Et donc, ce que Francis Schaeffer nous dit, c'est qu'il faut commencer par là. Il faut commencer à quelque part par cette vérité-là fondamentale. Et ce que les gens vont faire, c'est qu'ils vont refuser la réalité d'une loi morale. Paul dit dans Romains 1, il dit qu'ils retiennent injustement la vérité captive. D'accord? Donc, il découpe en deux morceaux. Si vous allez au verset 18, Romains 1, 18. « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété. » La piété, c'est la crainte de Dieu, le respect de Dieu, qui s'exprime de toutes sortes de manières. « Et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Donc, on pourrait le traduire comme une... Il garde de manière injuste une vérité qu'il possède. Ils étouffent une vérité. Si vous allez dans différentes traductions, vous allez voir toutes sortes de traductions comme ça. Donc, c'est une vérité qui est là, qui est étouffée. Et ce que Paul dit, ce que Francis Schaeffer adresse, c'est bon, mais c'est quoi cette vérité-là qui est étouffée, qui est dans chaque être humain? Donc, ce que Schaeffer nous dit, c'est qu'il y a deux aspects. Il y a la vérité intérieure qui est là, que je ne veux pas reconnaître, puis il y a la vérité ou la révélation extérieure qui est la création. D'accord? On voit les deux dans les versets 18, 19 et 20. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice de Dieu qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Donc, vérité captive, quelque chose que je sais mais que je ne veux pas, injustement j'étouffe ça, révélation extérieure qui me parle d'un Dieu. D'accord? Premièrement, la vérité captive. Et ce que Schaeffer dit, il dit toute la notion du fait que l'être humain est un être créé, n'est pas arrangé simplement parmi la classe des animaux, mais est dans une classe à part, qui a été créée à l'image de Dieu. Schaeffer, lui, fait l'argument, il dit, c'est visible, les êtres humains savent ça. Ils ne veulent pas le reconnaître, mais ils le savent. Les êtres humains, fondamentalement, ne se comportent pas. Puis c'est un petit peu ça que David, ce à quoi David faisait référence tantôt. Les êtres humains ne se comportent pas comme si on était simplement le fruit du déterminisme ou de l'évolution. Si je crois dans l'évolution simple, l'évolution pure, sans designer derrière ça, il n'y a pas rien qui est en train de me dire à quoi ça sert l'humanité. Bien, je crois au déterminisme. On est le fruit de l'évolution puis tout ça. Il n'y a pas de fondement lorsque je crois en ça pour une véritable moralité. C'est une moralité circonstancielle. C'est comme une espèce de... On va se donner des règles pour fonctionner ensemble. Si dans 50 ans, on veut se donner des nouvelles règles, on se donnera des nouvelles règles. C'est juste des règles de coexistence, de cohabitation. Il n'y a pas du bien et du mal. Il y a juste ce qui profite au groupe. C'est tout. D'accord? D'où cette idée-là qu'il y a une réaction vraiment épidermique dans les médias, dans la classe des bien-pensants qui disent les religions avec leurs absolus de bien et de mal, leur moralité, les moralisateurs, c'est inacceptable, ça n'a aucun bon sens, c'est chacun qui définit les choses comme il veut. Ben, si Dieu n'existe pas, puis qu'on est juste le fruit du déterminisme, ils ont 100% raison. Maintenant, est-ce que la société fonctionne de manière intègre avec cette pensée-là? Est-ce que notre société fonctionne vraiment de manière cohérente avec ça? Cette semaine, il y avait des grands débats sur la question du... Là, je les mélange, je m'excuse. Hijab, niqab. Vous savez la dame là, qui voulait être reçue comme canadienne, citoyenne canadienne, avec le visage caché? Grand, grand, grand débat. Fondamentalement, la majorité des Canadiens dirait que c'est porter atteinte à la dignité de la femme que de l'amener à cacher son visage. Je suis assez d'accord avec ce raisonnement-là. Mais je veux dire, si on est évolutionniste, il n'y a pas de bien et de mal là-dedans. Là. C'est quoi l'idée? Pourquoi est-ce que la femme... Je m'excuse, là. Comprenez que je suis en train d'apporter un faux raisonnement. Pourquoi est-ce que la femme serait-elle aussi digne que l'homme? Là, je vais dire quelque chose de gros, s'il vous plaît. Mon chien, Sarko, n'est pas aussi digne que moi. La preuve, c'est qu'il mange après moi, il va faire ses petits besoins quand je le veux bien. Puis s'il me fatigue, j'ai dit, va-t'en te coucher, Fido. Pourquoi est-ce que ce ne serait pas la même chose avec mes enfants? C'est quand même moi le plus fort. Mon épouse. Parce qu'aux dernières nouvelles, je suis plus fort qu'Esther. Pourquoi ça ne serait pas comme ça? Pourquoi est-ce qu'elle aurait une dignité propre en elle-même? C'est moi le plus fort de la maison? Ça vient d'où, cette affaire-là? Je veux dire, l'humanité domine tout le reste des animaux, puis l'homme domine tout le reste. Comprenez-vous? Ça vient d'où, cette conviction profonde-là? Qu'il y a des choses qui sont injustes. C'est pas correct. C'est pas le déterminisme qui nous a donné ça. Fait que chaque fois que la société crie injustice, 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 elle est incohérente si cette même société-là dit qu'il n'y a pas de bien et de mal. D'accord? Il n'y a pas de bien et de mal, il n'y a pas d'injustice, il y a juste des forts et des faibles. C'est tout. Puis ça va très bien. Voyez-vous l'incohérence? Donc, ce que Schaeffer dit, c'est que l'homme moderne, qui pense qu'on est juste le fruit de l'évolution, puis qu'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, est absolument incapable de vivre selon sa philosophie. Il est incapable de vivre suivant cette philosophie-là. Autrement, il va terminer avec une vision du monde où il va dire « Tout est absurde, rien n'a de sens. Une fois que je n'ai pas de plaisir, je me suicide, ça finit là. » Vous m'entendez souvent le répéter, c'est la suite logique. D'accord? Il y a plein de mots sociaux qu'on peut régler si on est vraiment déterministe. Hein? Je l'ai dit souvent, je sais que c'est scandaleux, mais il y a trop de monde sur la Terre. Ça se fait vite un petit ménage, moins de consommateurs, on balance tout ça, ça va bien. N'est-ce pas? Il y a un film qui est assez drôle, qui est sorti assez violent aussi. Kingsman. C'était ça le but du gros méchant là-dedans. Il y a d'éliminer 90% de la population, régler un problème, puis ça finit là. D'accord? Donc, ce que Schaeffer nous dit, c'est que l'homme moderne est incapable de vivre selon ses convictions énoncées parce que ce n'est pas ses convictions profondes. Et il tient cette vérité-là étouffée. Il ne veut pas reconnaître qu'il est un être moral qui croit dans le bien et le mal et qui agit à tous les jours suivant cette conviction-là. Quand quelqu'un me dit « Ah, moi je ne suis pas malhonnête, c'est le gouvernement qui est malhonnête, ce n'est pas grave si je fais quelque chose en dessous de la table », c'est eux autres les croches. Tu veux justifier ton péché en disant qu'eux autres sont pires. Tu es encore en train de moralisateur, c'est juste que c'est vraiment pourri comme raisonnement. Ça manque tellement d'intégrité. L'être humain, malgré ses théories déterministes, n'en demeure pas moins moral et il est tributaire de ses impulsions morales. Quand bien même prétendrait-il ne pas l'être? Donc, ce qu'il dit, c'est que impulsivement, sans même réfléchir, à tous les jours, celui qui dit qu'on est juste le fruit de l'évolution du déterministe se comporte, agit en suivant des impulsions morales. Pouvez-vous me donner quelques exemples de proches, d'amis, de voisins où vous voyez les gens au quotidien exprimer ces impulsions morales-là? Comme un geste qui est... C'est un jugement moral. Avez-vous des exemples? Juste brièvement, quelques-uns. T'as pris ma chaise. Je veux dire, si je crois dans l'évolution, c'est pas un problème. Pouf! Je m'assois. J'ai même pas besoin de dire merci. Oui. D'autres exemples. Impulsion morale. Quand tu corriges ton enfant, absolument. Je veux dire, quand tu dis à ton enfant, écoute, c'est qui a payé la bouffe qu'il y a dans ton assiette? C'est à qui la maison ici? Il y a certaines règles dans la maison. Tout un jugement, ça. Oui? OK, tu n'as pas le droit de faire ça. Oui? Quand quelqu'un ne respecte pas un cédé le passage... Je veux dire, ça devrait être l'occasion. Moi, je suis un compétitif. Hein? Quelqu'un me coupe, ça devrait être juste l'occasion de partir sur une course. Ça devrait être une belle opportunité. J'aime ça au karaté quand mon prof me bat, parce que la fois d'après, je vais être meilleur que lui. Quelqu'un me coupe sur la route. Yeah! Ça va juste être plus fun d'aller au travail. Non, non, c'est injuste. C'est injuste. OK, c'est intéressant. Justice. Voyez-vous, les gens autour de vous se comportent comme ça tout le temps. Fait qu'une question intéressante à poser à quelqu'un, ça serait justement de dire ça. D'où ça vient, d'après toi, cette impulsion-là, ce sentiment-là d'injustice? C'est-tu inscrit dans notre ADN, cette affaire-là? C'est où? D'où ça vient? Parce que Hitler, lui, n'avait pas de problème à éliminer des Juifs. Hein? Ça a l'air qu'on a trouvé ça bien scandaleux, cette affaire-là. D'où ça vient? C'est où, ça? Intéressant, hein? Comme porte d'entrée pour aller discuter sur l'existence de Dieu, sur la colère de Dieu. Laissez-moi juste vérifier que je n'oublie pas un petit élément. Au milieu de la page 3, ainsi l'homme manifeste son humanité et son sens profond de la présence de ces différents éléments chez lui, bien qu'il désirerait le nier. Juste au-dessus, pour citer Francis Schaeffer, le déterminisme place l'homme moderne dans une situation où la morale n'a effectivement plus aucun sens, mais il lui est impossible de vivre en accord avec cette théorie. Est-ce qu'il y en a qui trouvent que ce raisonnement-là ne tient pas la route? Quelqu'un vous a déjà contredit sur ça, puis vous dites, c'est pas bon, Yannick, c'est trop facile à défendre comme raisonnement. Peut-être? Parce que vous allez en trouver, là. J'ai discuté avec des agnostiques qui vont vous dire, non, il y a moyen de construire une moralité sans Dieu juste sur la base de l'évolution. Mais il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas beaucoup. L'homme, s'il veut être honnête, possède en lui-même cette vérité profonde qu'il n'est pas le seul fruit du déterminisme, mais qu'il est un être à part entière et unique, créé par un créateur qui lui ressemble. C'est toute cette idée-là qu'il y a dans l'être humain une noblesse plus grande que simplement le déterminisme. D'accord? Et là, je fais des blagues, là, on est entre nous, puis je suis sarcastique, mais dans une discussion, je le ferais juste avec quelqu'un de très arrogant. Mais je veux aller là. Je veux quand même aller là pour reconnaître, au contraire, t'es une créature, t'es un être beaucoup plus noble que ce que tu veux dire lorsque tu dis que t'es juste le fruit de l'évolution. T'es beaucoup plus grand que ça. Et ce qui fait que je vais prendre soin de mon chien Sarko, puis je vais l'honorer de manière différente parce qu'il y a 14 ans que ma petite chienne Sushi, qui a 4 ans, c'est pas le fruit de l'évolution, ça, je suis désolé. Comprenez? C'est un vieux crapoteux qui a de la misère à se traîner, puis on le dorlote comme si c'était notre grand-père. Ça vient d'où, cette affaire-là? Ça vient d'un sens moral. Au haut de la page 3, je voulais juste relire ça, je pense que je l'ai pas cité tout à l'heure. L'homme se distingue à la fois de l'animal et de la machine par ses impulsions morales, son besoin d'amour, sa crainte du non-être, c'est-à-dire de mourir mais de plus exister après, son ardent désir ou son exigence de beauté, sa recherche d'une raison d'être. Donc, on s'est concentré sur la notion d'impulsion morale. Mais au haut de la page 3, moi, je vous invite à réfléchir à ça, là. Vous pouvez prendre tous ces angles-là pour discuter avec quelqu'un, avoir une porte d'entrée pour discuter avec quelqu'un du fait que c'est des créatures de Dieu qui ont été créées à l'image de Dieu. Impulsion morale, c'est celle-là qu'on a définie davantage. Le besoin d'amour, cette quête-là d'amour qui dépasse un rapport animal, qui est très, très fort dans l'être humain. Sa crainte de ne plus être. D'accord? Ce n'est pas la mort qui nous fait peur, c'est définitivement le mystère qui entoure la mort, mais c'est la crainte de ne plus être de l'autre côté. Si tous les êtres humains avaient la certitude que de l'autre bord, c'est juste plus cool, c'est juste plus le fun, puis le party continue, il n'y aurait pas la même crainte, vous comprenez? C'est la crainte de ne plus être. Bon, là, les gens se raisonnent, puis ils se disent, « Ouais, mais là, si je suis vraiment logique, quand je ne serai plus, je ne saurai pas que je ne suis plus. » Fait que je devrais être bien dans ma peau parce que ma peau n'existera pas. Vous m'avez suivi? Et tu te conditionnes longtemps pour arriver là. D'accord? Tu forces fort, fort. C'est bon? Son besoin d'amour, sa crainte du non-être, son désir ou son exigence de beauté. Là, il y en a qui vont dire, de qu'est-ce que tu parles, monsieur l'esthète? C'est là dans tout ce qu'on fait. Dans la musique qu'on écoute. Dans les arts qu'on consomme, dans le fait qu'on décore notre salon, dans le fait que le matin, lorsqu'on se lève, on se dit « Ah, ça serait plus cute si je faisais ça que si j'y allais de même avec les cheveux sur la tête. » Puis, ouais, je pense que ça va être plus sympathique quand je vais saluer le monde. Comprenez, mon chien, lui, il n'a pas de problème avec ça. Il sert de la même bouche pour faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. J'aime pas toujours ça quand il me lèche. D'accord? Il n'y a pas de trouble avec ça. Bien, c'est cette notion-là, d'une espèce d'esthétique, de beauté qui dit non, c'est pas pour ça. Puis ça se reflète partout, dans tout ce qu'on fait. Partout. Ça ne s'explique pas simplement avec l'évolution. Et là, je ne parle pas du fait que la beauté existe dans la nature. C'est la deuxième partie. Je parle du fait qu'on apprécie la beauté. D'accord? Et puis, ça recherche d'une raison d'être. L'être humain a besoin de donner un sens à sa vie. Même l'économie l'a saisi. Même les compagnies ont besoin d'une raison d'être, une mission pour rendre le monde meilleur. Quand ta compagnie est là pour rendre le monde meilleur, les employés travaillent pour ta compagnie. Les clients achètent plus tes produits. Il faut donner une raison d'être à notre industrie, à notre économie. Ensuite de ça, l'autre élément qui est, à mon avis, un peu plus simple, c'est toute cette réalité que le monde extérieur à nous, ce qui est à l'extérieur de moi, parle aussi de l'existence de Dieu. Jean-Paul Sartre, le philosophe français, posait la question en premier, il disait « Comment se fait-il que quelque chose existe plutôt que rien? » Comment on peut expliquer ça? Et certains des philosophes vont être conduits à dire « Ben, il n'y a pas d'explication, puisqu'il n'y a pas d'explication, tout est absurde. La seule philosophie qui tient, c'est la philosophie de l'absurdité de l'existence. » D'accord? Mais s'ajoute à ça, c'est intéressant, parce que c'est une très, très bonne question qui ne peut pas être expliquée par le matérialisme ou par l'évolution simplement ou quoi que ce soit. Il s'ajoute à cela une seconde question au bas de la page 3, encore plus importante, car un plus grand mystère peut planer dans l'esprit du matérialiste sur le fait que ce qui existe ne fait pas qu'exister dans un état chaotique, mais au contraire, tout est ordonné. Non seulement l'univers existe, mais il est très ordonné. Albert Einstein, qui n'était pas un chrétien, qui n'était pas, je pense qu'il se serait défini tout au mieux comme un agnostique, d'accord? Quelqu'un qui dit, probablement plus que ça, plus qu'un agnostique, mais il ne croyait pas dans une révélation spéciale, un Dieu qui s'est fait connaître à travers la Bible directement. Albert Einstein lui-même, à la fin de sa vie, se présente comme une espèce de mystique moderne. Il reconnaissait qu'il devait y avoir une meilleure réponse à l'existence de l'univers que la simple perspective matérialiste, c'est-à-dire que tout est mécanique puis il n'y a pas de designer, car un ordre incontestable soutient l'univers. Et vous pouvez lire Einstein sur ça, là, je ne vous parle pas. Des fois, les chrétiens, on cite des penseurs non chrétiens un petit peu n'importe comment, puis quand tu fais des recherches, tu te rends compte que le gars n'a jamais dit ça nulle part. Là. Mais non, vous pouvez lire Einstein sur ça. Je me rappelle plus de son bouquin là, que j'ai lu il y a 20 ans. Mais Einstein se disait, non, il y a quelque chose derrière tout ça. Fait que j'aime comment Francis Schaeffer le résume. Il dit, « Ainsi pourrait-on dire, selon Sartre, quelque chose existe. Oui, ajoute Einstein, et voyez-vous la perfection de sa forme. » Non seulement quelque chose existe, mais il est parfaitement ordonné. Et là, on prend deux penseurs qui ne sont pas des penseurs chrétiens. Et ce que Schaeffer apporte, je vais terminer là-dessus, ce que Schaeffer apporte, il dit, à partir du moment où l'être humain étouffe cette vérité-là, qu'on a été créé par Dieu, qu'il y a une noblesse profonde en nous, qui est en fait l'expression du fait qu'on a été créé à l'image de Dieu, on a un sens moral profond, on veut une quête de sens à la vie, on s'interroge sur ce qui se passe après la mort, on apprécie ce qui est beau. La beauté, on a un sens esthétique profond. Toutes ces choses-là parlent du fait qu'on a été créé par un créateur. On est une créature créée à l'image de Dieu. Quand l'être humain étouffe ça, il va toujours trouver des explications superficielles aux problèmes profonds et aux problèmes existentiels. Donc, ce que Schaeffer va dire, il va dire, par exemple, on va essayer d'expliquer avec des phénomènes psychologiques tous les maux sociaux. L'explication psychologique fait partie du processus. On a parlé un petit peu la semaine dernière. Mon arrière-plan familial fait définitivement partie de ce qui me définit. Mais si je crois que je suis juste le fruit de combinaisons chimiques, d'accord, dans mon ADN, dans mon cerveau, puis tout ça, puis que je n'ai pas de responsabilité dans mes choix, je n'arriverai pas à tout expliquer. Je m'arrête à une explication qui est superficielle. Je n'irai pas à la racine même, j'ai été créé à l'image de Dieu, pour honorer Dieu, pour glorifier Dieu. Au bas de la, c'est-à-dire au haut de la page 4, là, mais comment l'homme cache-t-il cette vérité? Voici à mon sens ce que Paul veut dire. Les hommes possèdent certains éléments de la vérité relative à eux-mêmes et à l'univers. Mais le refus de s'incliner devant Dieu et le fait de se cramponner à leurs présupposés comme à une foi implicite les empêche d'en tirer les conclusions logiques parce qu'elles contredisent leurs présupposés. Selon eux, c'est eux qui décident. Il n'y a pas de Dieu à qui tu dois rendre compte. Et à partir de là, ils ne peuvent pas comprendre vraiment l'univers. Ils détiennent donc une partie de la vérité, mais injustement ou dans l'injustice, captive de leur improbité intellectuelle. Il y a un manque d'intégrité dans le raisonnement. Le bien et le mal n'existent pas, mais touche pas à mes affaires. OK, c'est beau. Obligés de vivre dans l'univers tel que Dieu l'a fait, ils ne peuvent échapper complètement à la vérité qui se rapporte à eux-mêmes et à cet univers. Mais accrochés à travers tous les anges à leurs faux présupposés, ils refusent d'aboutir aux conclusions qui découlent nécessairement de cette vérité. Puis on essaie de construire les choses avec simplement des explications comportementales ou psychologiques sans fondement moral. Et qu'advient-il lorsque l'homme cherche à s'expliquer à lui-même sans reconnaître ses vérités fondamentales? Il donnera toujours des explications superficielles à ses comportements moralement déviants. Donc, ce n'est pas que la psychologie n'est pas là dans l'explication, mais si je m'arrête là, si j'en reste là, l'explication va être superficielle. Et je termine avec une citation de Francis Schaeffer. « Si vous vous détournez de Dieu pour vous attacher à d'autres présupposés. » Ça va quand je dis présupposés? Dieu n'existe pas, par exemple. « Vous vous écarterez de la réalité elle-même parce que vous faites une autre lecture de la réalité. Vous devez interpréter les choses autrement. Si j'ai fait ça, ce n'est pas de ma faute, c'est de la faute à mes parents, puis j'ai rien à voir là-dedans, puis on n'a pas à me blâmer pour ça. » D'accord? Et donc, je fais une relecture de la réalité. Et plus vous chercherez à vivre en accord avec vos présupposés, plus vous vous distancerez du réel. Puis dans le fond, ce que Francis Schaeffer dit, c'est que lorsqu'on voit toute la déviance morale à laquelle qu'on lit dans Romains 1, c'est juste le résultat d'une société qui rejette Dieu, qui dit non, on va expliquer tout sans Dieu, puis Dieu les livre à eux-mêmes, puis tout ça, ça s'amplifie. Plus le temps avance, il faut que tu aies un système pour expliquer ça. Il faut que tu aies un système, puis ton système t'éloigne de plus en plus de la réalité. C'est bon? Êtes-vous capable de faire quelque chose avec tout ça cette semaine quand vous jasez avec des amis? Oui, David. C'est dans ces gènes, oui.
Alors, quand les gens disent ces choses-là, ils présupposent beaucoup de choses qu'ils ne peuvent pas justifier d'aucune manière. Donc, là, ce que j'essaie de faire souvent avec les gens, c'est de poser la question et insister sur pourquoi tu prends ça pour être. D'où ça vient cette connaissance qui est là et que tu penses que c'est immuable. Ça vient juste comme ça.
Leur présupposé. Oui. Puis je crois que ce que Francis Schaeffer ajouterait à ça, puis peut-être tu le fais aussi, c'est en prenant ce que vous avez au bas de la page 3, moi, ce serait le petit devoir pratique que je vous donnerais cette semaine. Ça commence par écouter les présupposés. Hein, c'est en écoutant l'autre que je vois sa vision du monde, tout ça. C'est important. Autrement, j'y arrive avec la solution, mais il n'y en a juste pas besoin de la solution. Il n'y a pas besoin d'être sauvé du jugement de Dieu. Il n'y en a pas de jugement de Dieu. Ce Dieu-là n'existe pas. C'est le Dieu des ancêtres qui pensait que le bien et le mal existaient. Tu sais. Fait que j'ai besoin de savoir c'est quoi ces présupposés. Dieu n'existe pas, le bien et le mal n'existe pas, donc il n'y a pas de jugement, donc je n'ai pas besoin d'être sauvé d'un jugement. Ça, c'est tous ces présupposés, d'accord? Mais en même temps, ce que Schaeffer nous dit au haut de la page 3, l'homme se distingue à la fois de l'animal et de la machine par ses impulsions morales, son besoin d'amour, sa crainte du non-être, son désir ardent ou son exigence de beauté, sa recherche d'une raison d'être. Fait que je crois que ce que Schaeffer ajouterait à ce que tu as mentionné, David, c'est que positivement, je peux aussi entendre ces choses-là qui sortent dans le discours des gens avec qui je parle, puis poser la question, mais ça vient d'où ça? Parce que moi, ça me fascine, ça. Moi, Yannick Etier, j'aime aller au Musée des Beaux-Arts, puis je suis dans une classe à part, là, je suis dans la classe de ceux qui peuvent pleurer en regardant un tableau, d'accord? Fait que c'est sont bizarres un peu, je sais, mais moi, je suis comme ça. Mais il y en a d'autres qui vont pleurer devant un beau match de football, pas simplement parce qu'ils prennent pour une équipe, mais parce que c'est tellement extraordinaire comme sport, puis c'est beau, c'est génial de voir ça. Je suis d'accord, moi je peux pleurer devant les deux. Mais donc, je peux partir de là. Je peux partir positivement d'un de ces éléments-là qui vont exprimer à quelque part, qui vont dire. Ils vont dire, hey, moi j'aime ça, cette cause-là, ça va changer les choses, ça va faire du bien. Intéressant, ça c'est une quête de sens. Ma vie a un sens. Pourquoi est-ce que l'être humain a besoin de donner un sens à sa vie? Mon chien n'a pas besoin de ça. Il a juste besoin de savoir qu'à 5 heures, la moulée va être dans son plat. Gilles, tu as le mot de la fin, homme sage. Puis je vais dire un mot de prière. Je t'ai stressé, là, vas-y. Bien, c'est une bonne question. Fait que, qu'est-ce qu'on répond à celui qui va dire « Oui, oui, il y a quelque chose d'autre que l'humanité. Il y a un monde extraterrestre qui est venu, puis c'est eux qui nous ont créés à quelque part ou qui ont laissé des choses, des traces. » Quand je suis rendu là, je suis plus rendu dans la Bible. Parce que ce n'est pas une vision juste logique, matérialiste du monde qui est juste scientifique. Ces gens-là croient dans des choses qui dépassent un contexte scientifique. Et ils sont ouverts à aller là. Fait que là, ma question, ça va plutôt être, ben, viens voir les Écritures pour le fun. Les Écritures te parlent d'extraterrestres. Ils parlent des anges, des démons, ils parlent de choses comme ça, tu sais. C'est pas les mêmes extraterrestres que tu penses, mais ils parlent d'extraterrestres, tu sais. Fait que là, je peux plus rapidement aller dans les Écritures puis aller voir cette révélation-là. Puis aller voir ce qu'elle dit. Parce que ces gens-là sont ouverts à une espèce de surnaturel, dans un sens. Fait que moi, dans ce cas-là, je peux aller plus vite vers les Écritures. C'est comme une théorie, eux autres, qu'ils ont pour expliquer de manière surnaturelle, si on peut dire, l'univers. Fait que là, je vais aller voir les Écritures, puis je vais dire, ben oui, la Bible parle de choses, de phénomènes inexpliqués. Je vais aller t'en présenter. On va aller voir si ça se tient. Après ça, est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il y a des traces? Personnellement, là, je préfère laisser le temps faire son travail avec eux, puis dire, regarde, je vais te conduire vers quelque chose de plus certain que ça. Si tu en as un qui veut venir souper avec nous un soir, tu l'inviteras, puis j'ouvrirai ma Bible avec E.T., ça va me faire plaisir. On fera ça ensemble. Mais pour moi, je peux aller plus vite vers les Écritures avec eux dans ce cas-là. On va dire un mot de prière pour terminer. Merci Seigneur pour ta parole. Père, on rit bien ensemble entre nous, mais tu sais Seigneur, lorsqu'on se trouve dans une conversation, c'est pas simple comme ça. On veut respecter les gens, on veut les honorer. Puis ces gens-là réfléchissent, Seigneur, tout autant que nous. On n'est pas des êtres supérieurement brillants. On est simplement reconnaissant de ce que tu nous as fait connaître, ta parole. Tu t'es révélé à nous. Et je te prie, Seigneur, de nous aider, comme Francis Schaeffer le mentionnait la semaine dernière dans l'autre chapitre, nous aider à être vraiment convaincus et à voir à quel point le christianisme est intelligent. Donne une explication super intelligente à l'univers, à l'être humain, à tellement de choses qui sont très mal expliquées par d'autres visions du monde. Je te prie de nous aider à comprendre ça, à voir ça, Seigneur, à avoir cette assurance. Je te prie aussi de nous aider à écouter les gens à qui on parle de toi. À être là à l'écoute, Seigneur, à les aimer vraiment pour aller les rejoindre là où ils sont et tranquillement poser des questions, Seigneur, pour les conduire vers toi. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.